Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une très grande affaire criminelle des années 70, l'affaire Pierre Conti, autrement connue sous le nom de l'affaire des tueurs fous de l'Ardèche. C'est une affaire unique puisque le tueur Pierre Conti a été condamné à mort par contumace, c'est-à-dire en son absence, en 1980, et qu'aujourd'hui, il court toujours. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Cette histoire a des allures de film d'action. Vous allez voir, ça bouge, ça défouraille, ça cavale, on ne s'ennuie pas. Mais avant d'entrer dans le feu de l'action, vous devez savoir deux ou trois choses sur le contexte. Car cette histoire se déroule en Ardèche, dans les années 70. C'est-à-dire au temps des hippies, au temps des chevelus idéalistes que les Ardéchois ont vu débarquer après 68. Notre triste héros du jour, Pierre Conti, Pierrot pour les intimes, est l'un de ses chevelus. Il arrive en Ardèche à la fin des années 60, c'est un pionnier. Il commence par élever des chèvres, comme ils le font tous, dans une ferme qui au passage ne lui appartient pas et dont il a terrorisé la propriétaire. Et puis il monte une communauté à Rochebesse et il a les honneurs de la télé.
Rochebesse, un hameau, presque une ruine, perdu quelque part en Ardèche à plus de 1000 mètres, non loin du Gerbier de Jonc. Abandonné depuis 10 ans par ses habitants descendus dans la vallée moins hostile, le hameau se mourait lentement. Alors, ils sont arrivés. Pierrot d'abord, de Grenoble, où il était ouvrier.
Bah, je crois qu'en fait, on a compris en ville, hein, on a dégusté quand même. Hein. Moi, j'y suis resté une vingtaine d'années. Travailler en usine, c'est pas forcément agréable. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je crois, je pense aussi. Hein.
Sur la porte de la ferme de Rochebesse, ils ont écrit « Mort aux flics et aux bourgeois ». Et pourtant, autour de Pierre Conti, il y a surtout des fils à papa parisiens, des petits bourges qui prétendent revenir aux sources. Il paraît que le fils Chaban Delmas est passé par Rochebesse. Officiellement, ils font du lait, de la viande, des céréales, de la laine, des fruits et des légumes. Entre nous, ils cultivent aussi de la marijuana. À part ça, ils ont des mœurs olé olé. Bah, le premier jour que je suis arrivé à Rochebesse, j'ai croisé une jeune fille. Elle déambulait complètement à poil. Elle avait 4 pâquerettes plantées dans la touffe. Ça, c'est pour le folklore. Car à Rochebesse, on pratique aussi le droit de cuissage. Et d'après ce qu'on dit, le gourou Pierre Conti se sert le premier. Même s'il a la générosité de mettre sa femme à disposition. Bref, vous voyez le bonhomme. Un peu tordu, un peu branzingue, un peu violent aussi, d'après ce qu'on dit. Il aurait des armes. Il s'entraînerait à tirer sur un vieux matelas. Et pourquoi faire? Ça, vous n'allez pas tarder à le savoir. Le mercredi 24 août 1977, deux chevelus attaquent une agence du Crédit Agricole à Villefort, en Lozère. Ça va très vite. Ils sont armés, ils braquent la guichetière, ils enferment tout le monde dans la salle des coffres et ils ressortent avec 30 000 francs. Et ils sautent dans une DS verte et ils tracent vers l'Ardèche. Et qui y a-t-il dans cette voiture? Eh bien, Pierre Conti, le gourou des hippies de Rochebesse, et Stéphane Viopécat, membre d'une autre communauté. Et un troisième, Jean-Philippe Mouillot, qui les attend un peu plus loin avec une autre voiture. Et oui, on vient de passer du côté obscur du Peace and Love. Et ça n'est pas fini. La DS roule à toute berzingue sur les routes de campagne. Pierrot et Steph doivent maintenant rejoindre le troisième, Jean-Phi, qui les attend avec une autre voiture pour échanger. Ils roulent donc, et à un moment, à la sortie d'un chemin de campagne, à un carrefour, ils tombent sur une estafette de la gendarmerie. Et là, vous allez voir ce que c'est que la phase B du Peace and Love. Un carnage. Et ils sont pétrifiés, tous les deux. imaginer. Ils ne savent rien, ils ne savent pas qu'il y a eu un braquage. Et en face, dans la DS, les deux types ont sorti des armes. Le chauffeur tient un pistolet mitrailleur et l'autre un fusil à canon scié. Le chauffeur sort de la voiture, c'est Pierre Conti, vous le savez. Il fonce droit sur le gendarme Luxac et il lui tire dans le ventre. Et le gendarme s'écroule. À ce moment-là, l'autre, le deuxième, Steph, se met devant le gendarme Klins et il tire. Mais il le manque. Et après, c'est Conti qui le braque. « Bouge pas !» Ils vont l'éliminer. Klins pense qu'ils vont le liquider comme ils viennent de liquider son copain Luxac. Alors il pense à sa femme. « Déconne pas, s'il te plaît !» Je suis marié, moi !» Et là, Steph lui montre le ravin. L'air de dire, ou tu disparais en bas de ce ravin, ou je te bute. Ni une, ni deux. Klins se jette dans le ravin. Il dévale la pente jusqu'à atterrir sur une haie de châtaigniers. Il les face contre terre. Il relève la tête lentement. Il regarde vers la route. Putain, le mec est toujours là. Non seulement il est toujours là, mais il se met à tirer. Klins se couvre la tête avec les bras, dérisoire, il va mourir. Et puis, non. Il entend la DS qui redémarre, les pneus qui crissent sur la chaussée. Ils sont partis. Alors Klins remonte le talus, il trouve son collègue Danny à l'agonie mais toujours conscient, il le tire à l'arrière de l'estafette et il fonce vers la brigade avec l'autre qui hurle à chaque virage. Pendant ce temps-là, Conti et Steph poursuivent leur course folle. Et là, devant eux, une 504. Une 504 qui les ralentit. Alors que fait Conti? Il la tamponne par l'arrière. Il veut la fiche dans le ravin. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est à la balancer contre un rocher. Le conducteur descend, Conti enclenche la marche arrière et il lui fonce dessus. Bam! Le type valdingue à 5 mètres. Et tranquillou, Conti repart. Pas pour longtemps. Car un peu plus loin, la DS tombe en panne sèche. Les guignols, pour un braquage, ils ont volé une voiture à sec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nos deux oiseaux voient alors arriver une 204 break. Ça fera l'affaire. Ils la braquent, le type s'arrête, ils chargent les armes, les pièces et les billets et ils reprennent la route. Normalement, le temps que l'autre donne l'alerte, ils sont tranquilles. Donc, ils prennent la nationale. Ils dépassent Pont de la Baume, ils prennent la direction du Puy-en-Velay, ils ne sont plus très loin de Rochebaisse. Et là, au loin, ils aperçoivent un barrage de gendarmerie. Putain ! Conti donne un grand coup de volant et il fait demi-tour au nez des gendarmes. Et après, il s'enfonce dans les routes de montagne, ça tourne, les pneus crissent, il va trop vite et... Boum ! Il tape une voiture qui vient en face, une Renault 12 rouge. Les deux braqueurs descendent de voiture, ils s'approchent de la Renault 12, il y a deux bonhommes à l'intérieur.
Bougez pas, on tire !
À ce moment-là arrive une autre voiture. Conti s'approche, arme à la main.
Descendez !
L'autre volant ne veut pas, il est terrorisé. Conti lui tire deux balles dans la tête. Et puis il revient vers les deux occupants de la R12 et... Il abat l'un des deux types, tandis que le second s'enfuit en courant. Dans sa fuite complètement folle, après ce braquage minable, Pierre Conti vient de tuer deux hommes. Le premier s'appelait Roland Malos, et celui qui est arrivé dans la voiture juste derrière, c'était son père, Cyprien Malos. Les deux voitures se suivaient. Il les a tués tous les deux. Pour rien. Il ne représentait aucune menace. Il n'était pas armé. Il les a descendus comme des chiens. Pierre Conti et Stéphane Viopécat s'emparent alors de la seule voiture qui marche, la dernière arrivée. Ils y chargent les sacs, les pièces et les billets et ils reprennent la route direction Rochebaisse. Leur cavale à ce stade a fait deux morts, plus un gendarme grièvement blessé, plus un automobiliste salement amoché. Le soleil se couche sur le plateau ardéchois quand Pierre Conti et son copain Steph arrivent à Rochebaisse, épuisés. Épuisés et parfaitement conscients qu'à partir de maintenant, ils ont toutes les polices et les gendarmeries de France sur le dos. Donc l'urgence, c'est de se débarrasser de la voiture. Cette voiture qu'ils ont volée à leur dernière victime.
Je propose qu'on aille la mettre dans la ravine de Saint-Julien-Chapdeuil. On y va ?
Conti reprend donc le volant. Mais vous n'allez pas le croire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quelques kilomètres plus loin, la voiture tombe en panne. En rade, sur le bord de la route. Alors, ils la laissent là. Ils n'ont pas le choix. Et ils rentrent à Rochebesse à pied, en se disant bien sûr qu'à partir de maintenant, dès qu'on retrouve cette voiture, ils sont repérés. Ils vont avoir les gendarmes sur le dos. Il ne va pas falloir traîner dans le coin. Au même moment, le gendarme Dany Luxac est transporté entre la vie et la mort en hélicoptère à l'hôpital de Montpellier. Je vous le dis tout de suite, il ne va pas survivre. Il va mourir après des jours et des jours de coma. L'épopée des deux chevelus aura donc fait 3 morts, dont un gendarme. Un officier de la gendarmerie lance un appel à témoins à la radio et à la télé.
Ils sont armés, c'est ce qu'il faut savoir. Ce sont des individus extrêmement dangereux. Alors ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que les personnes puissent nous donner des indications sur ces gens-là que nous recherchons, dont je ne donne pas de signalement. Mais je demande simplement à ce que tous les individus qui apparaissent suspects ou qui sont inconnus à part les habitants qui peuvent les observer, de bien vouloir informer le groupement de gendarmerie au numéro de téléphone suivant 09.
Le lendemain matin, on apprend que les gendarmes sont déchargés de cette enquête. On juge en haut lieu qu'ils n'ont pas été très performants, ce qui n'est pas très juste. C'était des gendarmes de campagne. Ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Bref, à partir de maintenant, c'est la police judiciaire de Montpellier qui doit identifier et arrêter les deux tueurs. La PJ sera aidée par l'anti-gang du commissaire Pellegrini. Le ministère de l'Intérieur a sorti les gros moyens.
La pluie ne cesse de tomber depuis hier sur les contreforts des Cévennes et c'est sous ce déluge que les policiers chargés de l'enquête refont depuis 24 heures l'itinéraire suivi par les gangsters. Les enquêteurs du service régional de police judiciaire de Montpellier passent donc à la loupe le chemin sanglant des deux gangsters. Il s'agit de relever les indices et surtout les témoignages, tous les témoignages, pour tracer le portrait robot des deux tueurs. Et puis, les spécialistes de l'identité judiciaire exploitent bien sûr tous les éléments, les empreintes en particulier, relevées à bord des voitures empruntées par les deux gangsters.
Tous les témoins, tous, disent que les deux tueurs étaient des chevelus, des hippies. Et dans la 204, les policiers retrouvent un indice précieux, une paire de lunettes, manifestement oubliée par les tueurs. Sur l'un des verres, il y a une bonne grosse empreinte digitale, un annulaire bien visible. Les flics la passent au fichier.
C'est bon les gars, on a une identité. Un type qui a été contrôlé il y a 1 an et demi pour port d'armes sans permis, il s'appelle Pierre Conti. Et on a une adresse les gars, le hameau de Rochebesse à Chanéac.
Les policiers de l'anti-gang prennent immédiatement la route de Rochebesse. D'abord toute sirène hurlante et ensuite à pas de velours, ils encerclent la ferme. Mais Pierre Conti n'y est plus. Il y a les gens de sa communauté, mais lui, pfft, envolé. Les policiers fouillent les maisons du hameau et dans une étable, ils trouvent un sac de billets et un sac de rouleaux de pièces aux couleurs du Crédit Agricole. Conti est parti avec une partie du butin, mais pas la totalité. Les policiers trouvent aussi, dans la ferme, une carte d'identité qui leur permet d'identifier le deuxième braqueur. Elle est au nom de Stéphane Viopécat. Donc un bon point, ils savent qui sont les deux tueurs. Et un mauvais, les deux types se sont barrés. Pierre Conti se retrouve à la une des journaux.
On peut dire ce soir que Conti est un homme traqué. Hier, en effet, les enquêteurs ont découvert une cache d'où Conti s'était enfui quelques heures à peine avant l'arrivée de la police. Ainsi donc, il n'a pas quitté la région. Il se terre quelque part dans les garrigues et cela donne raison à tous ceux qui, dans les villages ardéchois, sont tenaillés par une folle angoisse.
Alors, où sont passés Pierre Conti et Stéphane Viopécat? Où se planquent-ils?
Ce matin n'a rien donné. On n'a trouvé ni Conti, ni Viopécat, ni le moindre indice attestant du passage de l'un ou de l'autre. Et tandis qu'en présence du procureur de la République commençait le ratissage, j'ai entendu cette réflexion parfaitement fondée. Dans des endroits pareils, un homme jeune, en pleine force, et dont la rage de vivre est au moins aussi forte que la rage de tuer, eh bien dans ce pays, cet homme peut tenir des jours ou des mois entiers.
Depuis le début, une jeune femme ne loupe pas une miette de cette affaire à la radio. Cette histoire de hippie tueur, et pour cause, elle aussi vit dans une ferme paumée, la Hurle, dans la Drôme. Elle aussi, dans son genre, est une hippie. Elle élève des chèvres avec son copain Simon. Elle s'appelle Noël Sarolin. Et cette affaire l'intéresse d'autant plus qu'elle connaît vaguement Pierre Conti et lui a acheté des chèvres. Cinq jours après la tuerie, elle est dans sa cuisine en train de préparer une tarte aux prunes et par la fenêtre, elle voit un homme qui s'approche à pied. Nom de Dieu, le type a une carabine à la main. Et quand il est tout près, elle le reconnaît, c'est Pierre Conti.
Oh Noël, n'aie pas peur, je vais pas te faire mal. T'es seul?
Oui, je suis seul.
Simon est à Paris pour quelques jours. Traîne pas devant la maison, entre.
Je suis très fatigué, Noël.
J'ai besoin de souffler. 2-3 jours. Les flics me cherchent pas dans le coin. En tout cas, pas pour le moment.
Et voilà comment Noël Sarolin va se retrouver complice de la cavale de Conti. Mais d'entrée, elle lui pose une condition.
Ok, pour que tu restes ici. Un petit moment, Pierre, mais tu dors pas dans la maison. Hein. Tu pourras dormir dans la chèvrerie ou dehors.
Elle lui sert du thé, une part de tarte, Conti la dévore comme un morphale.
Tu manges pas, Noël?
Non, j'ai pas trop faim.
En vérité, elle est terrorisée par l'arme de Pierre. Cette arme qui a déjà tué 3 fois et qui est là, devant elle.
Tu veux savoir? Tu veux que je te dise la vérité?
Ta version des faits est différente de celle racontée par les médias?
Non. Ma version, comme tu dis, n'est pas différente. J'en ai touché 3, on en a raté 2. Ils ont réussi à se barrer.
Mais les gens dans la voiture, Pierre, pourquoi tu les as tués?
Il était trop con, le gars. Même son fils lui disait de lâcher le volant. Il n'y avait pas moyen de lui faire lâcher. Tu comprends? S'ils nous avaient donné la bagnole, on leur foutait la paix. Mais l'autre voulait rien savoir, putain. On était dans l'urgence, on n'avait pas le temps. C'était la panique, j'ai dû...
Le soir, Noël le conduit là où il va dormir, dans une combe, dehors. Et là, Conti lui dit
« J'ai confiance en toi, Noël. Merci pour ton aide, vraiment, merci. Je sais que c'est pas facile, t'es une fille courageuse. »
Le charmeur, c'est un charmeur. N'empêche que Noël se dit « Je ne veux pas qu'il reste là, je ne veux pas tomber pour complicité, je vais l'aider à s'enfuir. » Mais le lendemain, elle n'ose pas, il a l'air épuisé, elle ne se sent pas le courage d'exiger son départ. C'est lui qui, 3 jours plus tard, aborde le sujet.
« Je vais partir, Noël. Vendredi soir, à pied, par la montagne. Il me faut juste de quoi camper, mais je vais partir. »
Entre-temps, Noël s'est prise au jeu. Elle va lui donner un sacré coup de main. Elle va l'exfiltrer. Elle va lui faire quitter la zone, l'aider à passer les barrages de police. Elle commence, par la bande, à lui procurer des faux papiers qu'elle va récupérer sur un marché entre 2 tonnes de chèvres. C'est ça qui était convenu. Et ensuite, elle le relook. Elle lui coupe les cheveux pour qu'il n'ait plus l'air d'un hippie. Elle lui fait même un petit éclaircissement et l'arrêt sur le côté. L'exfiltration a lieu le 6 septembre, 13 jours après la tuerie. La veille, ils ont regardé une carte, imaginé où pourraient être les barrages. À 22h, Noël confie ses chèvres à l'un de ses amis, ils montent tous les deux dans la voiture, et c'est parti. Voilà leur plan. À chaque fois qu'ils pensent qu'il y a un barrage, Pierre descend de voiture, il coupe par les prés et par les bois, et il se retrouve un peu plus loin, et ainsi de suite. Et c'est aussi comme ça qu'il passe la frontière suisse. Et quelques kilomètres après la frontière, il se sépare. Noël sait qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus question qu'il lui donne des nouvelles. Pierre, j'aimerais bien savoir si tu es arrivé là où tu dois te planquer. Alors voilà un numéro de téléphone. C'est un ami, de confiance. Tu lui dis juste que tu es arrivé, il me fera passer le message. Bonne chance, Pierre. Quelques jours plus tard, elle reçoit la confirmation qu'il est bien arrivé. Où ça? Le gendarme Henri Klins, qui sera là avec moi tout à l'heure, a sa petite idée. Il a retracé le parcours de sa cavale et il pense l'avoir localisé, 40 ans après. Ah oui, parce que ça je vous l'ai pas encore dit. Pierre Conti n'a jamais été arrêté. Et après on ne sait pas ce qu'il est devenu. On l'a cherché, au début. Après, ça s'est tassé. Figurez-vous qu'après 1982, soit 5 ans après la tuerie, sa fiche de recherche a été supprimée des fichiers de la police et de la gendarmerie. Oui, monsieur, un tueur de gendarmes, au bout de 5 ans, on s'arrête de le chercher. Énorme. Pourquoi ? Les mauvais esprits diront « la gauche au pouvoir a protégé un camarade ». Mais honnêtement, il n'y a pas de preuve. Le gendarme Klins, qui sera avec moi dans un instant et qui a consacré une bonne partie de sa vie à cette affaire, pense qu'après, Conti s'est planqué pendant 3 ou 4 ans en Suède. Et qu'ensuite, il s'est installé, il nous le dira tout à l'heure. D'après lui, il y est toujours. Stéphane Viopekat est arrêté le 20 octobre aux Pays-Bas. Et en février 78, c'est Jean-Philippe Mouillot qui est interpellé à Paris, le troisième homme, celui qu'ils n'ont jamais rejoint. Et puis à un moment donné, en mai 1980, en l'absence de Conti, puisqu'il est en cavale, il faut bien organiser un procès devant la cour d'assises de Privas. Pour le défendre, Stéphane Viopekat a choisi Robert Badinter. Ça lui permet de ne prendre que 18 ans de prison. Mouillot, le troisième homme, prend 5 ans et Pierre Conti est condamné à mort par contumace. Mais pourquoi faire, puisqu'on ne l'a jamais retrouvé. Depuis le mois de mai 2000, 20 ans après sa condamnation à mort, les faits sont prescrits. Conti, où qu'il soit, peut très bien rentrer en France, demain, sans aucun problème. J'ai tiré mon histoire du livre d'Henri Klins aux éditions Mareuil, mon témoignage sur l'affaire Conti.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.